Madame Sylvie Baipoutemon, bonjour.
Bonjour.
Vous dénoncez l'injustice subie par les Centrafricains à travers le maintien de l'embargo sur les armes à destination des forces armées centrafricaines FACA. L'injustice pratiquée par qui ici?
Écoutez, l'injustice pratiquée par le Conseil de sécurité et notamment par certains membres, états membres de ce Conseil, par des textes qui sont soumis à vote par le porte-plume qui est la République française et soutenus notamment par le Royaume-Uni et les États-Unis pour le maintien d'un embargo qui est non seulement injuste mais qui est devenu totalement arbitraire.
Est-ce que, au regard de ce qui se passe sur le terrain, vous ne donnez pas raison au Conseil de sécurité de l'ONU de maintenir toujours l'embargo sur les armes?
Pas du tout. Justement, au regard du contexte centrafricain, c'est maintenir un embargo, c'est totalement laisser la légitimité aux groupes armés de continuer à s'approvisionner en armes lourdes et continuer justement à commettre des exactions sur la population centrafricaine et sur le territoire centrafricain. Cet embargo, depuis qu'il a été mis en place, n'a apporté que de la légitimité aux groupes armés.
Comment?
Justement, parce que l'embargo est totalement improductif et inefficace sur ces groupes armés. C'est un embargo qui lie les mains du gouvernement centrafricain, notamment des forces régulières centrafricaines, mais qui n'a aucun effet, aucune contrainte vis-à-vis de ces groupes armés. Et on le voit bien, depuis, malgré les efforts que nous menons avec la communauté internationale sur le territoire centrafricain, ces groupes armés continuent à se ravitailler parce qu'ils continuent à exploiter les ressources centrafricaines pour avoir les moyens. Et la question est justement, et ce que j'avais posé le 20 juin au Conseil de sécurité, de se concentrer davantage sur le circuit, la source d'approvisionnement de ces rebelles qui, eux, ne font pas l'objet, contrairement à tous les efforts que nous menons et puis les difficultés que nous rencontrons, ne font pas l'objet de rapports précis ou en tout cas d'actions par le Conseil de sécurité pour pouvoir justement couper ce réseau d'approvisionnement que tout le monde sait. Parce que ces groupes armés s'approvisionnent au vu et au su de tout le monde. Ils se déplacent. Vous savez qu'il n'y a pas que la sanction sur les armes, il y a également le gel des avoirs, il y a l'interdiction de voyager. La lutte contre l'impunité, la République centrafricaine en a fait son credo, mais au niveau du Conseil de sécurité, cette liste des sanctions, elle peine à être mise en œuvre parce que, justement, on privilégie une notion de dialogue avec des bourreaux, alors qu'ailleurs, ce n'est pas le cas.
Dans ce cas, vous savez très bien que le contrôle du territoire ou bien des frontières de la République centrafricaine appartient au gouvernement. Si aujourd'hui, les groupes armés qui sont sur le territoire centrafricain, comme vous l'avez dit, s'approvisionnent en armes à tout moment, mais qui devait contrôler les frontières?
Pour pouvoir contrôler, il faut justement pouvoir avoir non seulement des officiers formés, mais des officiers équipés. Et l'équipement, ce n'est pas forcément aller s'alimenter en armes lourdes. C'est d'avoir aussi des équipements qui nous permettent d'avoir un certain nombre de pouvoir se renseigner, de s'informer et de travailler de manière équitable avec d'autres pays. Vous connaissez le territoire centrafricain, c'est un territoire qui est vaste. Donc nous n'allons pas pouvoir mettre des hommes partout. Mais nous avons besoin d'avoir aujourd'hui, les équipements militaires sont sophistiqués, nous avons besoin de pouvoir nous alimenter sur cela, mais la liste est restrictive. Et pire, cette notion de notification, c'est quoi? C'est que nous ne pouvons pas discuter avec d'autres pays qui pourraient avoir justement de la compassion et de l'humanité pour la République centrafricaine et aider. Mais nous en avons fait les frais. Nous avons bénéficié d'une formation de nos officiers par un pays frère africain. Ce pays frère a fait l'objet d'un réquisitoire par le Conseil de sécurité et a été totalement découragé. Et aujourd'hui, nous peinons justement à pouvoir bénéficier ne serait-ce que de la formation. Alors imaginez ce qu'il en serait si cela concerne les armes.
Vous avez dit que les groupes armés s'approvisionnent au vu et au su de tout le monde. Et vous voulez ici, madame, accuser la MINUSCA?
Je n'accuse personne. Tout simplement, tout ce que je sais, la République centrafricaine est un pays qui est enclavé et fait frontière avec 6 pays. Ni la République du Tchad, ni la République démocratique du Congo, ni le Congo-Brazzaville, ni le Cameroun, ni le Soudan. Le Soudan produit des armes, mais aucun de ces pays n'est producteur d'armes. D'où viennent ces armes? D'où viennent ces mines antipersonnelles? Ces mines antipersonnelles ne sont pas produites par ces pays. D'où ils viennent? On en retrouve en République centrafricaine.
Et selon vous?
Écoutez, ce sont ces pays producteurs. L'exploitation de ces ressources bénéficie bien à quelqu'un. La situation chaotique de la République centrafricaine est à tort pour le peuple centrafricain, mais une situation de guerre profite bien à quelqu'un.
Si, selon vous, l'embargo ne se justifie pas, alors qu'une feuille de route a été donnée au gouvernement centrafricain, notamment à la construction de poudrières, la transabilité des armes et l'armée ne doit pas coopérer avec les forces non conventionnelles, ne pensez-vous pas que tout ce que je viens de citer motive le maintien toujours de l'embargo sur les armes?
Il n'y a rien de tout ce que vous venez de dire qui maintient et qui justifie justement le maintien de l'embargo. Il y a des benchmarks, des termes de référence sur lesquels nous travaillons avec l'ensemble de nos partenaires ici, que ce soit la MINUSCA ou d'autres partenaires qui travaillent notamment sur des problématiques de traçage, de marquage des armes, des bases de données qui pour pouvoir identifier justement ces différentes armes. Nous avons également un plan de défense nationale qui définit la cible, l'objectif sur lequel nous sommes en train d'aller pour avoir une armée de garnison, donc d'avoir aussi des lieux de stockage de ces différentes munitions. Nous travaillons à cela, mais on nous demande à la fois de travailler et de pouvoir gérer une guerre,
un conflit en même temps. C'est pas encore concret ce que vous dites.
C'est concret, des évolutions. D'ailleurs, quand le dernier rapport de la MINUSCA qui a été présenté par le secrétaire général des Nations Unies le 20 juin dernier, le rapport qui est sorti à la mi-juin, ce rapport fait l'objet justement de progrès plus que significatif. Ce rapport et en tout cas les efforts du gouvernement ont été applaudis et félicités par l'ensemble des pays membres du Conseil de sécurité, en encourageant le pouvoir à continuer. Mais vous savez que c'est comme une maladie vient vite, pour la guérir, on prend le temps, et c'est exactement ça. Nous sommes dans une phase de construction, et en terre centrafricaine, vous trouvez l'ensemble des États membres du Conseil de sécurité qui sont ici et avec lesquels nous travaillons en toute transparence.
Dans le libellé de cet embargo, nous avons su que c'est maintenu. Si oui, quelles sont les conditions requises dans ce document pour l'instant ?
Je pense qu'il faut que les choses soient claires. Il y a un texte qui existe, qui s'appelle « Embargo sur la RCA ». Dans ce texte, quand vous le lisez, il vous dit qu'il n'y a plus de limitation d'accès aux armes pour les forces régulières, moyennant notification, donc information du comité des sanctions. Cette partie n'a pas lieu d'être, tout simplement parce que c'est aussi le fait de dire qu'il n'y a plus de limitation, c'est reconnaître aussi des efforts, que nous sommes dans la phase où nous faisons des efforts et il faut pouvoir encourager pour la suite. Et le reste rentre dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité.
Et donc, en un mot, l'embargo est toujours maintenu.
L'embargo est maintenu parce que dans la mesure où vous êtes encore sous tutelle, parce que cet embargo, c'est quoi? C'est une sanction qui demande au gouvernement centrafricain de venir répondre à la barre du Conseil de sécurité sur des activités qui relèvent plus des groupes armés. Il y a un amalgame complet entre les forces régulières qui représentent la République centrafricaine et des groupes armés pour lesquels, parce que la justification de cet embargo par beaucoup d'États, et notamment ceux qui veulent ce maintien, c'est de dire, et encore c'est ce qu'il disait déjà en 2013 et qui encore pouvait se concevoir, c'est de dire, nous ne voulons pas que les armes dans la République centrafricaine vont devoir s'équiper, se retrouvent dans les mains de mauvaises personnes, donc notamment des groupes armés. Mais aujourd'hui, le gouvernement n'a pas cet équipement, à part les livraisons qui leur sont faites, validées par le Conseil de sécurité, mais les groupes armés s'approvisionnent par des achats parce qu'eux ont les moyens, par l'exploitation de nos ressources. Si le Conseil de sécurité le souhaite, qu'il fasse un texte qui ne concerne que les groupes armés et dans ce cas-là, qui trouve les voies et les moyens de pouvoir convoquer ces rebelles à la barre du Conseil de sécurité et leur demander des comptes.
Mais il est question de dialoguer aussi avec ces chefs de groupes armés.
Écoutez, oui.
Est-ce que cela a été fait?
Écoutez, je vous pose la question. Est-ce qu'ailleurs, on dialogue avec ces bourreaux?
C'est moi qui pose la question ici.
Oui, mais moi, je vous repose la question. Pourquoi en République africaine, vous voulez qu'on dialogue avec les bourreaux? Ça a été fait. Nous avons mis un cadre, d'ailleurs. L'accord politique pour la paix et la réconciliation a été un cadre qui a été mis en place justement pour répondre à cette volonté politique marquée par le président de la République de la main tendue. Cet accord politique est là, mais ces groupes armés ne respectent pas, n'ont pas respecté leurs engagements.
Madame, nous savons que la France reste et demeure toujours le porte-plume de cet embargo. Est-ce que vous avez été associé, je parle du gouvernement centrafricain, à la rédaction de ce nouveau texte?
Écoutez, ce nouveau texte, nous l'avons connu après les différentes consultations, les premières consultations. Nous n'avons pas été associés à la rédaction de ce texte.
Pourquoi?
Posez la question à la partie française. Ça concerne la République centrafricaine, mais nous ne sommes pas associés. Raison de plus pour dire que les aspirations du peuple centrafricain, les positions du gouvernement centrafricain ne sont pas prises en compte. Et c'est ça aussi qui fausse le débat et qui fausse le texte. Nous ne pouvons pas produire un texte sur la République centrafricaine sans discuter avec la République centrafricaine.
L'actualité aujourd'hui, vous le savez très bien, c'est la campagne référendaire. Quelle est donc votre position?
Écoutez, ma position, c'est que je voterai oui. Moi-même, en tant que Sylvie Baye-Potemon, ministre des Affaires étrangères, mais Sylvie Baye-Potemon en tant que personne et ressortissante centrafricaine, je fais le choix de voter oui.
Dans ce document où les binationaux sont disqualifiés à la présidence de la République,
je ne pense pas qu'il faut présenter des choses comme ça. Les binationaux ne sont pas disqualifiés.
Oui,
tout simplement,
à la présidentielle.
Je suis ministre. Et selon la volonté du président de la République, je resterai peut-être ministre, je ne sais pas. Après, les centrafricains, nous sommes nombreux, mais je peux être député, je peux être ministre, je peux être maire, je peux apporter ma contribution en tant que binationale à la République centrafricaine.
Donc ça veut dire que vous n'avez aucune ambition pour devenir président de la République un jour?
Écoutez, j'ai une ambition de pouvoir contribuer à mon pays. Ce n'est pas un titre qui fera que je ne contribuerai pas à mon pays. Par contre, si je souhaite, et c'est ce que la nouvelle constitution laisse le choix, si je souhaite devenir président de la République, en toute âme et conscience, il me faudra dire aux centrafricains, je ne représenterai que la République centrafricaine, je suis centrafricaine, et le dire aux yeux du monde.
Oui, mais il faut aussi renoncer à votre nationalité française.
C'est ma réponse, justement. Je dirai aux yeux du monde que je suis centrafricaine et je représente le peuple centrafricain. Je porte un seul drapeau.
Madame Sylvie Baye-Potemon, merci.
C'est moi qui vous remercie.